Après sa démobilisation, l'ajusteur Doriot avait connu en 1921 le chômage. Ce gaillard de 23 ans ne pouvait alors faire par jour qu'un maigre repas. Quand il fut maire de Saint-Denis, 10 ans plus tard, la municipalité devait secourir plus de 10 000 chômeurs. Écoutons-le faire le procès de l'organisation capitaliste et demander en 1931 une assurance chômage très partiellement réalisée de nos jours.
Camarades, le chômage qui atteint 50 millions d'ouvriers dans le monde est un mal profond, chronique, attaché au système de production capitaliste. Karl Marx nous a montré ses causes en analysant le double caractère de la production capitaliste. En vue d'augmenter les profits tirés de l'exploitation des ouvriers, le capitalisme rationalise, comme on dit aujourd'hui. Il applique sans cesse les procédés techniques les plus modernes de production en vue de réduire constamment le nombre d'ouvriers occupés à la fabrication d'un même produit. Il produit également le plus possible sans se préoccuper de la capacité de consommation du monde. Marx a eu raison de résumer son analyse en ces termes. Le système capitaliste est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein. Ne voyons-nous pas en effet le Brésil détruire son café, le Canada brûler son blé, les États-Unis et l'Égypte brûler leur coton, l'Australie détruire son troupeau de moutons et près de la moitié des usines et mines du monde cesser de produire parce qu'elles ont trop produit. Et pendant ce temps, 50 millions de chômeurs et leurs familles souffrent de faim, de froid et traînent en guenille. Sous le capitalisme, il en est ainsi. Il y a tant de misère pour l'ouvrier parce que l'ouvrier a créé trop de richesses. Avant la guerre, le chômage était connu. Il était passager. Il revenait avec chaque crise et disparaissait avec elle. Après la guerre, il est devenu permanent. Des travailleurs ne retrouveront jamais plus de travail sous le capitalisme. Le déclin rapide du capitalisme, ouvert par la guerre mondiale, transforme l'armée de réserve industrielle en armée permanente de chômeurs. Le capitalisme responsable de cette crise ne fait rien pour ses victimes principales. Dans notre pays, un chômeur sur 10 touche une aumône ridicule. Des millions de chômeurs partiels ne touchent rien. Le capitalisme espère se sauver de la crise qu'il a créée en affamant des millions d'hommes dans le monde. Les chômeurs, au contraire, doivent tenter, par le groupement, la lutte et l'organisation, de faire supporter les frais de cette crise aux seuls responsables. Notre parti dirige leur mouvement en vue d'obtenir l'assurance chômage, payée par l'État et les capitalistes, et garantissant les ressources perdues par le manque de travail, ainsi que la diminution légale de la journée de travail à 7 heures, sans diminution de salaire. Cette lutte est une étape importante de la lutte fondamentale de la classe ouvrière contre le capitalisme. Un seul pays au monde ne connaît plus le chômage. C'est l'Union soviétique, où l'homme n'est plus exploité par l'homme. Seul le socialisme vainqueur dans le monde entier liquidera le chômage parce que son système de production est absolument basé sur d'autres principes que le système de production capitaliste. Aussi, pour la classe ouvrière, le but fondamental à atteindre, c'est la substitution par la voie révolutionnaire du socialisme au capitalisme. C'est à cette lutte que notre parti la convie sans cesse.
Février 1932. Doriot, membre du bureau politique du Parti communiste, est déjà en marge de la ligne très sectaire imposée par Staline. La religion était l'opium du peuple. Or, on va l'entendre évoquer avec sympathie un bénédictin, dont Bélois, l'abbé Robec et les traditions séculaires auxquelles Saint-Denis demeure très attaché.
D'ici quelques jours, le mariage d'un certain nombre de rosières aura lieu en la mairie de Saint-Denis. Nous y emmènerons d'ailleurs nos aimables auditeurs. Qui, mieux que le maire de cette ville, pouvait les documenter sur cette vieille et pittoresque coutume? La voix de Paris se l'ont rendue tout à l'heure à Saint-Denis, ou dans la vieille mairie où les traces du passé se marient, elles aussi, sans être des rosières, avec celles des temps modernes, nous avons joint M. Jacques Doriot. Le voici devant notre micro et nous lui passons la parole.
La cérémonie qui va avoir lieu le premier dimanche de février est très ancienne dans notre cité. Le premier legs qui a été attribué aux rosières, remonte à 1600 48. Cela fait un certain nombre de siècles. C'est Dom Bélois de Francière qui était un moine de la basilique qui a songé le premier à récompenser les jeunes filles qui faisaient preuve, a-t-il dit, d'honnêteté et de sagesse et qui résidaient depuis 5 ans dans la ville de Saint-Denis. Il a posé une autre condition, c'est que le mariage ait lieu dans l'église abbatiale. Depuis, d'autres fondations ont été créées. C'est ainsi qu'en 1885, Louis-Pierre Fleury a donné un legs pour attribuer chaque année à une jeune fille méritante une somme assez importante, comme vous le verrez dans un instant. Puis, en 1898, M. Van der Heij-Martin a suivi les deux exemples que je viens de vous citer. Un autre donateur, M. Gambier, a suivi aussi la tradition qui était déjà créée, mais il n'a pas insisté sur le mariage religieux. Nous avons séparé les deux cérémonies. Au mois de février, nous couronnons les rosières qui sont mariées devant le maire et devant l'abbé Robeck. Et au mois de juin, nous marions civilement celles qui sont bénéficiaires du legs Gambier. La population de Saint-Denis est très attachée à cette vieille tradition. Le mariage et le couronnement des rosières se passent toujours devant une assistance considérable et au milieu de la sympathie générale d'une population laborieuse très éprouvée par la crise. La municipalité que j'ai l'honneur de diriger recherche parmi les familles ouvrières de Saint-Denis celles qui sont le plus chargées d'enfants, et c'est ainsi qu'elle désigne les rosières après un examen de la situation de ces familles plongées dans la difficulté du fait de la crise économique. Le choix étant impartial, est accueilli par tout le monde avec faveur, et la vieille coutume que nous avons tenu à cœur de continuer, à laquelle nous donnons un éclat tout particulier, donne à Saint-Denis, rappelle que Saint-Denis est une ville de caractère historique, de vieille tradition, et que si elle est aujourd'hui une ville très moderne, une grande ville industrielle, elle ne renie pas du tout son grand passé historique.
Merci, monsieur le maire, voilà qui a été excellemment dit, et tous les auditeurs de la Voix de Paris vous auront gré de nous avoir documenté si clairement et si brièvement sur le cas des rosières. Encore tous nos remerciements, monsieur le maire.
Doriot vient de fonder le rayon majoritaire de Saint-Denis. Il rompt avec l'international communiste. La lutte est difficile. Un membre du comité central du Parti communiste a été affecté à chaque cellule. Et pourtant, les moscoutaires restent en minorité. Doriot et ses compagnons se battent pour l'unité ouvrière et contre la guerre.
Le monde capitaliste est traversé par une crise extrêmement profonde. Les classes sociales qui faisaient la richesse des nations, les ouvriers, les paysans, les classes moyennes connaissent une abominable détresse. Alors qu'existe partout des stocks formidables inutilisés, des dizaines de millions d'hommes meurent de faim. La société ressemble à un corps frappé de paralysie. Les capitalistes responsables de la gestion économique, politique et sociale de la presque totalité du monde, l'Union soviétique exceptée, se sont révélés incapables d'éviter la crise. Comme le fameux apprenti sorcier qui avait déchaîné la tempête et ne pouvait plus l'arrêter, les capitalistes restent désemparés devant le désordre infini provoqué par leur système de production. Quand ils tentent d'apporter des solutions à ce grand drame économique et social, ils signent eux-mêmes la profonde déchéance de ce système. Ils brûlent ou détruisent les stocks au lieu de les distribuer aux masses affamées. Ils brisent leur outillage comme le faisaient les prolétaires craintifs du Moyen-Âge à l'apparition des premières machines. La formidable contradiction
qui existe entre la possession privée des moyens de production et leur mise en route par la classe ouvrière produit ces cruels résultats. Le système de production basé sur le profit est arrivé à sa fin. Ce que les doctrinaires du socialisme ont prévu se réalise sous nos yeux. Le capitalisme est son propre fossoyeur. Il ne peut plus aller de l'avant. Seul le mode de production socialiste, c'est-à-dire la suppression du profit capitaliste, le retour des moyens de production à la collectivité peut permettre à l'humanité une nouvelle progression. Ainsi, l'heure du socialisme a sonné. Cependant, malgré les conditions économiques et politiques extraordinairement favorables à sa réalisation en Europe, le capitalisme ne quitte pas l'arène historique. Presque partout, il remplace la démocratie par le fascisme et des dictatures sanglantes. La classe ouvrière a raison. C'est elle qui devrait être au pouvoir pour réaliser son idéal, et cependant les capitalistes y restent et la foulent aux pieds. Seule sa faiblesse est cause de son échec, et sa faiblesse provient de sa division. Dans notre pays, deux partis, des dizaines de groupes morcellent le prolétariat. Chacun prétend avoir raison, mais la raison apparente de chacun conduit à l'échec de tous. Le sectarisme prétentieux de la Troisième Internationale nous a valu des échecs aussi lourds que le réformisme de la Seconde. La classe ouvrière n'a plus confiance dans les prophéties et les recettes à bon marché des détenteurs exclusifs de la bonne doctrine. Et elle a raison, car à l'usage, les prophètes des diverses écoles n'ont été que de mauvais guides. Ainsi, nous assistons à ce paradoxe monstrueux. Le capitalisme se survit à lui-même et la classe ouvrière est incapable de lui donner le coup de grâce. Il faut redonner à la classe ouvrière la force d'agir. Il faut l'unir, une seule CGT, un seul parti ouvrier, avec la volonté de changer un régime à l'agonie. Voilà ce qui s'impose d'urgence si nous voulons devancer le fascisme au pouvoir et remplir notre grande mission libératrice. L'unité vaincra le désarroi des chefs et des partis. L'unité entraînera toute la classe ouvrière derrière le drapeau du socialisme. L'unité permettra l'alliance de toutes les victimes du capitalisme. L'unité sera la clé qui nous ouvrira la porte de l'histoire.
Sur la vieille cité d'histoire et d'usine flotte encore le drapeau rouge, mais il n'est plus marqué par le marteau et la faucille. Et voici qu'un soir, devant la basilique où dorment nos rois, éclate un chant révolutionnaire qui couvre l'international chanté par les Lignards. C'est en avant Saint-Denis, ce vieux cri de la maison de France qui si souvent a rallié les chevaliers sur les champs de bataille, retentit dans l'atelier des luttes sociales.
Abolissant toutes les libertés, partout pourtant les richesses abondent, n'apportant que chômage et pauvreté. Au sein des masses gronde la colère, barrons la route aux fascistes assassins. Pour l'unité de la classe ouvrière, Saint-Denis vous dit, nous vous tendons la main. En avant Saint-Denis, en avant. Pour l'unité révolutionnaire, sous le drapeau rouge flottant au vent, nous entraînerons tous les prolétaires contre l'odieux régime sanglant. Devant le fascisme qui nous menace, c'est dans nos rangs que se trouve votre place. En avant Saint-Denis, en avant. Si nous devons tenir les barricades, si nous devons lutter jusqu'à la mort, socialistes, voyez nos camarades, l'unité d'action nous fera plus fort. Et c'est au champ de l'international que nous changerons le régime ici-bas, car les soviets en terrible rafale du capital auront sonné le glas. En avant Saint-Denis, en avant, pour l'unité révolutionnaire, sous le drapeau rouge flottant au vent, nous entraînons traîneront tous les prolétaires contre l'odieux régime sanglant. Devant le fascisme qui nous menace, c'est dans nos rangs que se trouve votre place. En avant, Saint-Denis, en avant.
En 1935, contre Moscou, Doriot a accepté des preuves de force. Il a démissionné du conseil municipal et présente sa liste. En face de lui, Duclos, sur ordre de Staline, en présente une autre. Au cours d'un banquet électoral, Doriot va s'adresser à ses électeurs.
Bon, camarade Marshall, veux-tu me dire où en est la lutte contre la guerre?
Ah, la lutte contre la guerre? Oh, on verra ça tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, nous allons d'abord répondre aux camarades. En ce qui concerne la lutte contre la guerre, tu as pu constater combien nous avons fait d'efforts à Saint-Denis pour justement défendre cette idée de paix et pouvoir convaincre les travailleurs de France combien notre politique était juste. Et nous aurons l'occasion au cours de cette campagne électorale de développer encore plus largement tous nos mots d'ordre et toute notre plateforme politique. D'ailleurs, le camarade Doriot va venir tout à l'heure. Il pourra lui poser des questions, il te répondra, il te donnera toutes les indications indispensables. Ah, ben voilà le grand, il va te dire.
Ah, voilà Jacques.
Bonjour les amis.
Bonjour Jacques.
Ça va? J'ai presque envie de la passer sur le crâne. Même quand on est certain d'être battu, faut rigoler quand même. Bon.
Alors Jacques.
Eh bien, vous savez, camarades, que le but essentiel de la campagne que nous menons est de mobiliser les travailleurs de Saint-Denis en faveur du maintien de la paix. Le parti auquel nous avons appartenu pendant longtemps, qui s'appelait le Parti communiste, a maintenant complètement changé de politique. Ce parti, qui a lutté pendant 15 ans pour maintenir la paix en Europe, est devenu aujourd'hui l'un des plus fanatiques partisans des sanctions militaires contre l'Italie, des sanctions militaires contre l'Allemagne. Il veut en sorte se battre avec tout le monde. Nous qui connaissons bien ce parti, nous avons le devoir de mettre les travailleurs en garde contre cette politique. Nous avons le devoir de reprendre ce qui a toujours été les idées de la classe ouvrière, le rapprochement des peuples et éviter une nouvelle conflagration européenne. Le but principal de notre campagne, c'est d'assurer la paix dans les foyers.
Bravo ! Bravo ! Bravo !
Duclos et sa liste ont été écrasés. Mais le Front populaire triomphe aux élections législatives. La paix est plus que jamais menacée. C'est alors que le député-maire de Saint-Denis fonde le Parti populaire français, qui, selon ses statuts, est un parti démocratique et discipliné. Le drapeau rouge est remplacé par le drapeau tricolore, celui de la garde nationale que Louis XVI avait choisi en 1789. Il ne s'agit plus de l'unité ouvrière, mais de l'unité nationale et impériale. Doriot garde le salut en avant, mais l'hymne du mouvement, interprété à Saint-Denis pour la première fois devant l'aviateur Jean Mermoz, quelques semaines avant sa disparition, c'est France, libère-toi.
Libère-toi, France, libère-toi. Secoue le jour des luttes fratricides. Que l'étranger importe son comptoir. Sous le couvert de promesses perfides. Que le français soit maître de ses lois. Hors du pays, les fauteurs de querelles. Nous ne subirons pas votre tutelle. Libère-toi, France, libère-toi. La liberté que nos ancêtres ont payé du prix de leur sang est menacée de nouveaux maîtres. Lève-toi au peuple tout-puissant. Déjà la rouge dictature refait semblant de combats inhumains. Ce repas de notre blessure. tout français, indique ton la main. Libère-toi, France, libère-toi. Secoue le jour des luttes fratricides que l'étranger apporte sous ton toit, sous le couvert de promesses perfides, que le français soit maître de ses lois. Hors du pays, les fautes de querelle, nous ne subirons pas votre tutelle. Libère-toi, France, libère-toi. Unissez-vous, hommes de science, ouvriers, humbles paysans, joignez la force à l'expérience, en commun, soyez des artisans, les pionniers de la vie nouvelle, au plus léger sera notre tribu. Écoute Doriot qui t'appelle, enfant de France, vers le plus noble but. Libère-toi, France, libère-toi. Secoue le jour des luttes fratricides que l'étranger apporte sous ton toit, sous le couvert de promesses perfides, que le français soit maître de ses lois. Hors du pays, les fautes de querelle, nous ne subirons pas votre tutelle. Libère-toi, France, libère-toi.
Pourquoi le Parti populaire français ? Doriot nous le dit.
Français. Le Parti populaire français groupe des hommes venus de partout. Communistes, socialistes, radicaux, volontaires nationaux, ligueurs, nationaux, d'autres qui n'avaient jamais fait de politique. Ouvriers, paysans, intellectuels, producteurs et commerçants y sont fraternellement unis. Ceux pour qui la question sociale primait les problèmes nationaux y ont retrouvé le culte de la patrie. Les patriotes y ont appris que la justice sociale est la condition élémentaire de la grandeur de la nation. Le parti a ainsi préparé la réconciliation nationale et sociale qu'il veut réaliser dans toute la France. Cette réconciliation est indispensable au redressement du pays, menacé d'un danger considérable, le communisme. Animé jadis d'un idéal de justice sociale, ce parti est devenu l'instrument servile de l'État russe. Il se propose de faire en France une révolution sanglante sur le modèle soviétique, au moment où le marxisme a fait une faillite éclatante chez Staline. Pour arriver à ses fins, il détruira par la violence notre patrimoine national, nos institutions, notre capital, nos classes moyennes, notre paysannerie, nos libertés. Il ferait peser sur notre pays la plus abominable des tyrannies, sans profit pour la classe ouvrière, puisqu'au terme de son expérience sanglante, il remplacerait, comme en Russie, la bourgeoisie par une nouvelle caste de parvenus soviétiques. De plus, il plongerait notre pays dans la guerre civile et étrangère. Cette armée soviétique campée sur notre sol n'a pu prendre ses positions dans la classe ouvrière française qu'à cause de l'incohérence de notre système économique, de l'incompréhension et de l'égoïsme des classes dirigeantes qui ont laissé trop de misère s'abattre sur les masses laborieuses. Pour vaincre définitivement le marxisme, il faut que règne la justice sociale, et pour que règne la justice sociale, il faut refaire la France. Le Parti populaire français fera de l'État le guide moral de tout le peuple et l'arbitre indépendant de ses conflits économiques et sociaux. Il organisera l'économie française en substituant au désordre actuel un système de groupement corporatif déterminant librement les conditions de la production. Il instituera la collaboration permanente des ouvriers, des techniciens, des patrons et rendra parallèles les progrès techniques et les progrès sociaux. Il reliera l'avenir de la France à son glorieux passé, en faisant de la région française le centre de la vie économique et culturelle. Il fera de l'Empire une unité politique et économique. Il donnera aux peuples coloniaux vivant sous notre tutelle plus de bien-être et plus de liberté. Notre jeunesse admirable aura ainsi une œuvre grandiose à accomplir. Ayant retrouvé son équilibre intérieur, sa paix sociale, sa puissance économique, la France, forte et invincible, sera à l'abri de la guerre. Le Parti populaire français vous appelle. Venez avec lui pour barrer la route à la dictature soviétique et refaire une France indépendante, puissante, heureuse. PPF vaincra.
Le PPF est une communauté impériale. Ses fédérations se développent aussi bien à Lille et à Strasbourg qu'à Alger et Abidjan. Doriot, comme en proie à une idée fixe, parcourt la France et l'Afrique du Nord pour essayer, selon l'expression de Drieu-La Rochelle, de terrasser la guerre. Nous sommes au début de 1938.
c'est bon. Monsieur Léon Blum n'a pas ce sang. Monsieur Léon Blum ne comprend pas. S'il le comprend, c'est encore plus criminel. Où me trouve conduire ce pays? Les communistes ont saboté toute la politique sociale du Front Populaire. Les communistes sont en train de nous pousser vers la guerre. Les communistes ont voulu nous y entraîner à propos de l'Espagne. Les communistes veulent que nous servions de paravent, de paratonnerre. À l'Union soviétique, ils veulent que nous nous battions à la place des Russes contre l'Allemagne. C'est parce que nous savons tout cela que nous leur avons, nous, déclaré la guerre en France. Vous me connaissez depuis 22 ans, Dionysien. Depuis 22 ans, je vis parmi vous. Vous savez que j'ai toujours été à votre égard. Le désintéressement, la loyauté, la probité même.